France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Je suis une antilope, racontait Florence Villart dans un fameux opus des pieds sur scène, nos petits spectacles. C'est comme ça que l'a décrit sa psy. Imaginez, dit-elle, vous vous abreuvez à un point d'eau au milieu de la savane. Il fait un temps magnifique, vous êtes avec toutes vos amies antilopes et ça pourrait ressembler au bonheur, sauf que vous n'êtes jamais, jamais tranquille. Il suffit par exemple que le vent secoue légèrement une broussaille et vous avez l'impression d'être en danger de mort. Tout votre système d'alerte se met en branle, votre cœur s'accélère, vos pupilles se dilatent et vous détalez à toute vitesse, la fuite étant la seule façon que vous avez trouvée pour sauver votre peau. En psychiatrie, être une antilope, cela porte un nom, expliquait Florence, ça s'appelle avoir un TAG, un trouble anxieux généralisé. C'est une pathologie parfois gérable, ça c'est moi qui ajoute, comme Florence qui le gère très bien, ou invalidante, comme on va le raconter aujourd'hui. Un trouble qui se fixe de façon différente. Pour les spécialistes, si on peut dire, ce sera la peur de vomir, l'avion, la foule de façon ciblée. Mais pour d'autres, l'anxiété générale va se balader et trouver des objets successifs où s'agripper, que dis-je, s'épanouir, des terrains, et je sais de quoi je parle. Alors au moment même où on croira en avoir fini avec l'avion, la foule, au moment où ce travail angoissant est enfin achevé, un autre objet d'anxiété vient s'installer, triomphant, et ça ne s'arrête jamais. Tout de suite donc, voici trois parcours d'anxiété. Ils sont racontés par Pauline Verdusier, qui sait aussi de quoi elle parle.
Je m'appelle Aude, j'ai 39 ans, j'habite Nantes et je suis chercheuse en sciences sociales. J'ai fait ma première crise d'angoisse dans ma vingtaine, dans les années 2010, quelques mois après la mort de ma mère, qui est décédée à la suite d'un cancer qui a duré plusieurs années. Et ça s'est manifesté par une incapacité à prendre les transports en commun, en particulier le métro à Paris. Donc je faisais des attaques de panique à l'idée que le wagon s'arrête entre deux stations. J'avais l'impression que j'allais mourir étouffée. J'avais très chaud et j'arrivais plus du tout à respirer. C'est devenu très handicapant au point que je n'arrivais plus à prendre le métro, ce qui m'a forcée à aller voir une première psychologue. C'était évidemment en lien avec le décès de ma mère. Et le problème s'est résolu comme ça en quelques mois, sans aide médicamenteuse, juste par la parole. Donc j'ai pu penser à l'angoisse pendant des années, pendant environ une dizaine d'années. Et un soir de 2020, je dîne avec un copain en ville et je sens les premiers signes de l'angoisse arriver. J'ai chaud, je me sens pas bien, j'ai la nausée. Et pour la première fois depuis 10 ans, je suis obligée de prendre un anxiolytique pour me calmer. Et cette angoisse, elle ne passe pas. Je n'ai ni répit ni repos face à l'angoisse. Mais je ne comprends pas du tout les raisons pour lesquelles se sont déclenchées cette angoisse, puisque à l'époque, je m'apprête à rentrer dans un laboratoire de recherche qui est assez prestigieux, à signer un contrat postdoctoral qui est un contrat qui est assez recherché. Et pourtant, cette angoisse, elle ressurgit et elle est vraiment immense et je ne sais pas quoi en faire. Ce que j'avais mis de côté dans ma tête, c'est que dans ce laboratoire de recherche, travaillait un homme qui était accusé de viol par une de mes collègues et travaillait également mon ex-compagnon avec lequel j'avais enfin réussi à couper les ponts après des années d'emprise. J'allais donc me retrouver dans une institution qui me mettait face à des hommes violents et qui ne pouvait pas m'en protéger puisque on sait qu'il existe aujourd'hui des espaces en particulier au travail et dans des univers très compétitifs où ces violences de genre, elles sont banalisées ou invisibilisées. Et je le sais d'autant plus que mon travail en tant que chercheuse, c'est d'étudier la domination masculine au travail. Donc en termes de symptômes, ça se manifestait par des cauchemars récurrents, une incapacité à sortir de chez moi. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à sortir, à aller dans la rue, à aller au magasin à côté de chez moi. J'avais des pensées intrusives, je prenais beaucoup d'anxiolytiques. Et surtout, j'avais des copains en fait qui gardaient leur portable allumé en permanence, et la nuit surtout, au cas où j'ai besoin de discuter avec quelqu'un, parce que j'étais dans une terreur telle qu'il fallait que je me sente écoutée et protégée. Je pleure beaucoup, j'arrive pas à apaiser mon angoisse, donc Ma sœur et mon père me viennent en aide, en fait, et viennent m'accompagner dans les différentes démarches que je dois faire ces jours-là, aller signer mon contrat, faire un tour chez le médecin, parce que quand même, je trouve que c'est un peu bizarre ce qui m'arrive. Et une fois que chacun reprend sa vie et que moi, je reprends aussi la mienne et qu'il est l'heure de commencer ce contrat et d'aller justement dans ce laboratoire de recherche, j'arrive plus à sortir de chez moi, en fait. Tout mon système nerveux est en alerte et il n'arrive pas à se reposer. Et j'ai dû aller dans ce laboratoire, je pense, une dizaine de jours, pas plus. Et à la suite de ça, j'ai demandé à être en télétravail à 100% parce que la simple idée de devoir aller dans ce laboratoire et de pouvoir côtoyer cet homme me rendait la vie absolument impossible. Donc parallèlement, j'entame justement un parcours pour trouver des solutions médicales pour réguler mon angoisse, mais on est entre deux confinements. Et j'ai alterné comme ça en allant voir un certain nombre de professionnels, des médecins, des psychiatres, des hypnotiseurs, des sophrologues. J'ai été chercher un peu des réponses un peu partout, mais à chaque fois, les manifestations de l'anxiété ont été assez vite banalisées ou mal interprétées, puisque beaucoup de gens mettaient ça sur le compte du Covid. Il fallait que je m'essaye à la sophrologie, que je mette quelques gouttes de lavande dans mon thé le matin. Et en fait, quand on est dans des états de détresse psychologique, on a tendance à croire un peu tout ce qu'on nous dit et à essayer un peu tout ce qu'on nous propose. Mais je savais au fond que c'était pas la solution, c'était pas le chemin pour moi. Et la preuve, c'est que ça a pas marché pour régler mes angoisses. Je décide de quitter Paris quelques mois après le début de ce contrat, en janvier 2022. Je décide de rentrer en Bretagne chez mon père, puisque je suis plus autonome. Je ne peux plus sortir de chez moi et surtout, je ne supporte pas d'être seule. Donc, quand mon père n'est pas dans mon champ de vision, j'ai des attaques de panique. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc, très rapidement, en arrivant en Bretagne, j'ai été voir mon médecin de famille, donc qui est le médecin de quartier, qui m'a reçu pendant plus d'une heure, puisqu'il existe des consultations dédiées à la santé mentale qui peuvent être faites par les médecins généralistes. Et il a posé enfin des mots sur ce qui m'arrivait. Et il a parlé de troubles anxieux généralisés qui seraient liés à un syndrome de stress post-traumatique suite à la relation que j'avais subie avec mon ex-compagnon. Et il m'a proposé de prendre des antidépresseurs en me disant que, comme quand on se casse une jambe, on prend une béquille, là, il me proposait de prendre une béquille chimique en attendant que je sois mieux dans mon corps. Et sa condition, quand même, pour me prescrire ces médicaments, c'était d'aller voir un psychologue en parallèle. Ces deux méthodes combinées ont fait en sorte que je commence à sortir la tête de l'eau. Pendant les premiers jours, je me suis un peu écoutée et surtout, j'ai pas fait particulièrement d'efforts pour sortir de chez moi parce que je voulais voir ce que la chimie faisait à mon corps. Et puis, progressivement, aidée par mon père, justement, j'ai commencé à sortir progressivement dans le jardin, puis j'ai passé le portail, puis je suis descendue dans la rue et enfin je suis allée au supermarché à côté. Et ça paraît assez bête, mais pour moi c'était une victoire absolument fantastique d'arriver à aller jusqu'au supermarché au bout de la rue. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidée dans la position de mon père à ce moment-là, c'est que il a pas jugé du tout de la manière dont ça se passait, il m'a juste accompagnée de manière très concrète et très pragmatique. Il me disait bravo d'être allé au bout de la rue, bravo d'être allé de sortir dans le jardin, j'ai besoin d'une carotte pour faire la soupe, est-ce que tu peux aller au supermarché, vraiment si tu t'en sens capable, parce que j'en aurais besoin, mais c'est toi qui vois, selon tes possibilités. Un matin, je suis à la recherche d'une solution pour soulager mon corps, puisque mon corps a beaucoup souffert avec l'anxiété. On est le 19 janvier, il est 8h30 du matin et il fait 4 degrés dehors. Je suis assise sur un banc, sur la plage, et je vois à ma gauche quatre petites mamies qui sont vêtues uniquement de chaussons, d'un bonnet et d'un maillot de bain, et qui partent se baigner. Et je les regarde complètement éberluées, et à ce moment précis, il y a une autre dame qui se baladait sur le chemin, qui s'assoit sur le banc à côté de moi, et elle me dit « Vous voyez les dames là qui sont dans l'eau? Elles se sont soignées par l'eau froide, ça a des vertus fabuleuses. » Et elle s'en va. Et le signe m'a paru tellement énorme que j'ai éclaté de rire et je me suis dit je peux pas faire autrement que d'aller voir ces dames et de leur parler. Et elles m'ont invité à les rejoindre le lendemain, ce que j'ai fait. Et j'ai fait ça hiver comme été pendant 2 ans. Tous les jours. Et ça durait vraiment un quart d'heure, le temps de se mettre en maillot, de faire quelques brasses et puis de ressortir, puisqu'il y avait quand même une règle assez fixe, pas plus d'une minute de baignade par degré. Donc si l'eau était à 8 degrés, on se baignait 8 minutes maximum. On ne s'est jamais vu en dehors. On ne parlait pas forcément de nos vies, on parlait vraiment de choses très banales, de la météo, du prix des langoustines, des actualités locales. Mais on arrivait quand même à deviner en filigrane que... certains parcours de vie avaient été un peu chaotiques, certaines avaient des problèmes de santé, certaines avaient connu des maris violents. C'était des trajectoires pas faciles, mais elles avaient trouvé du réconfort dans l'eau froide. Je me souviens du premier bain, parce qu'il faisait très beau ce jour-là. Il faisait toujours 4 degrés dehors et 5 ou 6 degrés dans l'eau. Je n'avais pas du tout l'équipement approprié, mais j'y suis quand même allée, à peu près jusqu'au ventre. Et les encouragements de mes nouvelles camarades de baignade m'ont tellement portée. Et moi, j'étais tellement fière aussi d'avoir réussi à rentrer dans l'eau que ça m'a procuré un sentiment de joie que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Et c'est ce qui fait que j'ai aussi continué tous les jours pendant aussi longtemps. Et le nom de ce groupe, c'était les Mouettrieuses. Entre le moment où j'ai commencé les antidépresseurs et le moment où j'ai vraiment été en mesure d'être autonome et de vivre seule, il y a eu environ 4 mois. Donc j'ai cohabité avec mon père pendant 4 mois. Et ensuite, il est reparti vivre avec sa compagne. Et moi, j'ai continué à rester dans cette maison et puis à continuer à réapprendre, tout simplement, à faire des choses assez fonctionnelles et à faire ses bains en eau de mer. Donc je suis restée 2 ans dans cette maison et au bout des 2 ans, je me sentais beaucoup mieux. Et donc j'ai déménagé à Nantes où j'ai pris mon appartement, où je me suis fait des nouveaux copains, où j'ai trouvé un nouveau travail. J'ai quitté le monde universitaire. Je continue aujourd'hui la recherche, mais je le fais pour une institution publique et plus pour le monde universitaire. J'ai aussi rencontré un nouveau compagnon avec lequel je suis dans une relation très saine et très équilibrée. Je sens aujourd'hui que j'ai encore certaines fragilités face au choc émotionnel, que l'anxiété a creusé dans mon cerveau des sillons qui ne demandent qu'à être remplis. Je suis toujours médicamentée, donc ça m'aide beaucoup. Je sais aussi que je suis entourée, qu'il y a des solutions. Et puis je sais que l'océan est toujours au bout de la rue.
Je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans et je suis téléconseillère à l'assurance maladie. Mon anxiété, c'est l'hémétophobie. Donc l'hémétophobie, c'est la peur de vomir ou de voir les autres vomir. Et c'est une phobie qui est extrêmement répandue mais très méconnue. Quasi personne n'aime vomir, donc forcément, on prend très peu au sérieux cette phobie. Je pense que le déclencheur de l'hémétophobie, donc ça devait être en 2014, donc je pense que j'avais 13 ans. Je le raccroche à quand j'étais dans un fast-food. Et en fait, je vois un fils avec son père en train de courir pour aller aux toilettes. Et là, le fils, qui devait avoir quoi, 5 ans, vomit devant moi parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes. Donc, il rentre devant moi. Et je pense que ça a beaucoup joué pour le reste. Puisque ensuite, j'ai eu de l'anxiété dans les restaurants et dans les lieux publics. Et en fait, ensuite, j'ai connu un peu un épisode de gastro qui était assez compliqué puisque j'ai vomi à Noël 2014 et puis février 2015. 2015, c'est la dernière fois où j'ai vomi. Donc, cette année, ça va faire 11 ans que je n'ai pas vomi. Ça a permis d'installer vraiment l'anxiété et l'hémétophobie dans mon quotidien. Comme l'enfant qui a vomi au fast-food, c'était le déclencheur. En fait, dès que je sortais de chez moi et avec l'épisode de gastro, je me disais, ça va m'arriver comme l'enfant. Donc en fait, c'était, ok, je vais à l'école, je dois repérer tous les petits recoins des couloirs si jamais j'ai besoin de vomir. Les toilettes, je les repérais facilement. Dans la classe, si possible, je me mettais à côté de la porte de sortie. Je calculais tout. Parce que je savais pas quand est-ce que ça allait arriver et que ça pouvait arriver puisque j'avais vu quelqu'un vomir devant moi. Dès que je sortais de chez moi, en tout cas de chez mes parents, c'était « Ok, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Est-ce que j'ai assez de choses qui pourraient me protéger ?» Par exemple, un petit sac, au cas où si j'ai besoin de vomir, la brume, menthe poivrée, ça apaise pas mal les nausées. Dans ma tête, c'était constamment « au cas où, au cas où, au cas où, je vomis ». Et donc, Je me concentrais quasi pas sur les cours. Je sortais pas. J'habitais en campagne, donc déjà c'était la vie sociale un peu plus compliquée à la campagne. Dès que mes amis me proposaient de sortir, je sortais pas. Ils me proposaient de dormir chez eux, je disais non. Je disais que j'avais des devoirs, je disais ceci, cela. Pareil, mes parents, quand ils me disaient on va au restaurant, je leur disais non, je dois travailler. Même pour dormir, c'était l'angoisse parce que se mettre dans le noir, ça m'oppressait. Et même chez moi, pendant peut-être 4-5 ans, j'ai dormi avec une petite lumière. J'ai pas pu vivre une adolescence entre guillemets comme beaucoup de personnes et je découvrais pas le monde quoi. Mes parents ont décidé de m'emmener voir, je pense, une psychologue courant 2015 ou 2016 en fait, quand je mangeais quasi pas et que vraiment l'hémétophobie s'est installée. Et en fait, je n'ai pas du tout aimé sa façon de travailler, donc c'est une personne qui était pas à l'écoute et qui, je me sentais incomprise devant un professionnel de santé en fait. Je suis arrivée sur Paris en 2020, donc pendant le confinement, et j'ai commencé mes études, donc j'étais encore chez mes parents. Donc en fait, je faisais 3 heures de transport par jour, et j'étais à la fac. Et en fait, entre l'anxiété et la fatigue, j'ai pas pu me concentrer sur ma licence, donc j'ai arrêté au début de la deuxième année. J'ai rencontré en même temps ma première copine, et j'ai emménagé chez elle parce qu'il fallait que je trouve un travail, et que c'était plus facile de trouver un travail sur Paris. Et l'anxiété s'apaisait aussi parce que c'est la première personne qui m'a compris. Dès que je prenais les transports et que ça allait pas, je l'appelais et elle me rassurait. Sa voix, juste sa voix m'apaisait. Donc c'était chouette. Je pense que j'ai mis ce mot-là sur cette phobie. Ça devait être courant 2019-2020 quand je voyais que ça allait pas mieux, que je perdais toujours du poids, que ça se stabilisait pas, que j'avais toujours des angoisses non-stop. J'ai dû trouver le mot sur internet, j'ai dû taper peur de vomir, crainte de vomir tout le temps ou autre. Et en fait, le mot hémétophobie a dû ressortir. Et donc là, je me suis dit, ok, donc je suis hémétophobe parce que les symptômes, parce que je vis ça quotidiennement, parce que ça se stoppe pas, parce que ça fait des années que je vis ça. Bon. Comment j'ai dealé les transports avec la vie parisienne et mon anxiété? Donc déjà, c'est de calculer, donc encore une fois, anticiper les trajets. Et en fait, en fonction du métro que je dois prendre, donc par exemple la ligne 3, elle me va totalement, puisqu'elle est pas très affluente, il y a quasi personne. Au tout début du train, je vais à la deuxième voiture, et je me mets au fond de la voiture, je me mets côté sortie, donc près de la porte. Donc j'ai ma petite place, je suis très bien, et ça me rassure de la voir, parce que dès qu'on arrive à un arrêt, j'ouvre la porte si besoin, je sors. Quand ça commence à être rempli, je vais repérer les personnes qui ont des sacs de course, ou des sacs, en tout cas, pas des sacs à main collés à leur épaule, mais des sacs qui sont plus ou moins ouverts. Et je me dis, si jamais, voilà, on est en route, on est sur le chemin, on n'est pas à l'arrêt, si j'ai besoin de rendre, je rendrai malheureusement dans le sac de la petite dame qui est à côté de moi, dans son sac de course. Donc je m'imagine prendre le sac et en fait l'ouvrir et vomir et m'excuser. Donc en fait, ouais, j'imagine que je vais bousiller ses affaires. Il m'arrive de ne pas prendre les transports et de devoir faire les trajets à pied. Parce que ça me rassure plus, parce que en fonction de l'heure à laquelle je prends les transports aussi, bah non, je vais pas les prendre parce qu'il y a beaucoup trop de monde, donc c'est plus simple de marcher. Et tant pis si ça me prend une heure au lieu de 30 minutes. Tant pis, je prends l'air, c'est pas grave. Donc par rapport à mon environnement de travail, c'était assez angoissant au début, puisque déjà c'est un nouvel environnement, donc il faut que je m'y adapte. En plus c'est un immeuble assez grand de 10 étages, et je suis au 10e étage, donc si j'ai besoin de prendre l'air rapidement, voilà, on peut pas aller plus vite que la musique, hein, c'est ascenseur ou les escaliers, mais je peux tomber dans les escaliers. Quand je suis arrivée, il y avait des poubelles à chaque table, donc ça me rassurait. J'avais repéré, je me disais, ok, là il y a une poubelle, là il y a pas de poubelle, c'est pas grave, je prends la poubelle de mon voisin. Au moment du repas, ça pareil, ça m'impacte beaucoup, au moment du repas, je ne mangeais pas du tout avec les autres. Parce qu'avec les gens, les odeurs des autres, en tout cas de la nourriture des autres, et le fait de me dire, bah si j'ai besoin de vomir, les toilettes sont à perpète, et j'ai quasi pas de moyens avec moi, en fait. Donc je mangeais dehors ou je mangeais pas. J'ai cherché des pistes, effectivement, j'en cherche toujours, parce que les phobies, la plupart du temps, ça vient de quelque chose. Je me suis dit que ça pouvait être lié à un événement, voilà, une agression que j'avais vécue quand j'avais 11 ans, je crois. Je sais toujours pas si c'est ça. Je sais pas si ça pourrait avoir un lien avec mes parents. Est-ce que c'était le fait que, effectivement, ils... Ok, ils réagissaient directement dès que je vomissais parce que c'est sale, parce qu'il faut nettoyer, parce que ceci, cela, mais ils n'étaient pas tant présents avec mon anxiété. Ils me disaient de manger, ils me forçaient à manger. Donc, Enfin, j'avais obligation de finir mon assiette. Si je la finissais pas, bon bah c'était une engueulade et voilà. En fait, enfin même encore aujourd'hui, quand je mange chez eux ou que je suis amenée à manger à l'extérieur avec eux sur Paris, j'ai encore de l'anxiété avec eux. Alors qu'avec des proches qui me jugent pas, qui me comprennent, il y a aucun souci. Mes parents, je sais qu'ils vont pas forcément comprendre et ils vont juste pas bien me regarder ou me faire une réflexion que j'ai pas envie d'entendre en fait. Donc non, ça m'a limitée dans énormément de choses. Et là, en fait, je vis un peu ma deuxième adolescence. Donc en fait, depuis septembre 2024, j'ai décidé de commencer un traitement d'antidépresseur. Ça a eu un effet extrêmement positif. Enfin, c'est le premier hiver que je passe très calmement. Parce que les hivers sont toujours très compliqués avec les gastro, justement. C'est là où il y a une hausse, justement, de personnes malades. La seule anxiété que j'ai, c'est... Bah oui, de prendre les transports toujours. Donc c'est sur froide, sur chaude, rythme cardiaque qui s'accélère, mains moites, pieds moites. Donc là, si je dois aller dans un restaurant ou quoi que ce soit, je vais continuer à repérer les sorties, les toilettes, à quasi pas manger. J'ai eu une petite angoisse, je sais plus, il y a 2 semaines, je crois, où j'ai pris à emporter du coup. Et une fois sortie, j'ai mangé mon truc. Je me stabilise un peu au niveau de mon poids, donc ça, je suis contente. C'est cool, parce que j'ai envie de faire des choses. J'ai envie d'aller rencontrer du monde et j'ai envie de sortir de chez moi.
Je m'appelle Quentin Zution, j'ai 35 ans et je suis auteur et dessinateur de bandes dessinées. Alors je pense que j'étais un enfant anxieux, mais que c'est pas la manière dont on me qualifiait. Moi, on disait que j'étais un enfant sage, doux, timide, et particulièrement gentil. Dans mon adolescence et au début de l'âge adulte, tout ça, alors je pense pareil, j'étais anxieux, mais j'avais appris à masquer énormément. Et puis, il y a 3-4 ans, j'ai commencé à avoir une psy, suite à une rupture et à plutôt des soucis dans mon travail où je procrastinais beaucoup. J'arrivais vraiment plus à me mettre à l'ouvrage. Et j'avais dû partir de mon appartement aussi, un peu précipitamment. Enfin, le plafond menaçait de s'effondrer, etc. Donc, j'ai dû partir le temps des travaux. Et du coup, dans l'appartement que j'avais trouvé, enfin, qu'on m'avait même gentiment prêté, c'était à Orléans. Et je suis seul, donc, dans cet appartement. Et je sens une anxiété monter. Et je me souviens, enfin, j'avais regardé déjà un peu avant plein de tutos YouTube pour savoir comment gérer et comment accepter cette anxiété qui vient et puis la faire disparaître, quoi. Et où, je me souviens, c'était un YouTuber qui suggérait de regarder les objets qui nous entourent et puis de dire, bon, bah là, c'est ça, tiens, c'est gris, ah, c'est machin. Et moi, je me souviens, du coup, détailler dans ma tête le four qui est en face de moi. Mais sauf que dans le four, je vois mon reflet dans le four et du coup, je m'imagine brûler dedans. Enfin, un poulet rôti, quoi, qui cuit dans le truc. Donc, ça ne m'est pas du tout à calmer. Et en plus, moi, j'ai eu beaucoup de symptômes de pensée intrusive très, très forte. C'est-à-dire qu'une fois qu'une idée se fixe, bon, ben, elle peut être fixée pour 3 heures, 4 heures, une semaine. Enfin, chez moi, enfin, ça pouvait durer très, très longtemps, ces pensées intrusives. Et je commence à ne plus vraiment sentir mon corps, à avoir l'impression que si je me lève, mes jambes vont se fissurer, craquer, ou que je vais dégouliner. Et je devais quand même souvent aller à Paris pour des rendez-vous professionnels ou tout ça, ou des mêmes rendez-vous médicaux, ou pour aller voir ma psy. Et à chaque fois que je rentrais dans les wagons, j'avais des montées anxieuses, quoi, très très fortes. Ça se trouve, je vais faire un malaise. Ça se trouve, je vais vomir. Ça se trouve, je vais me pisser dessus. Ça se trouve, je vais me chier dessus. Ça se trouve, je vais mourir. Et une fois que le train démarrait, je ressentais un léger soulagement, quand même. Alors, il y a eu vraiment une semaine, la dernière semaine d'octobre 2023. Je pense que je me souviendrai toute ma vie de cette semaine. En fait, une crise d'angoisse de 6 jours, sans aucune pause. Après, bon, j'étais accompagné quand même par ma psy qui m'a, du coup, là, accueilli tous les jours. Mais en même temps, il fallait que je sorte de chez moi pour aller la voir. C'était un enfer. Enfin, et j'étais presque incapable de bouger, incapable de me nourrir convenablement. Chaque fois que je bouffais quelque chose, j'avais envie de vomir. et avec en plus une incapacité de dormir. Et des heures sur Google à taper tous mes symptômes. Et donc, ça reprovoquait une crise d'angoisse, par exemple, parce que je me suis dit, ça y est, je suis schizophrène. Ça y est, je suis bipolaire. Et ça me disait, vous avez exactement tous les symptômes du dysphorie de genre. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Je dois être une femme transgenre. Et il y a eu un énorme pic au moment où j'ai mangé un quartier de pommes. Je découpe jamais mes pommes. Et là, je l'avais découpé en me disant, mais comme ça, ce sera plus facile à avaler. Et ça m'a fait penser à ma mère. Parce que la seule personne qui coupait ces putains de pommes, c'était ma mère. Et quand j'ai réalisé ça, elle a une montée anxieuse encore plus forte. Et donc j'ai appelé ma psy en lui parlant de ça, d'avaler la pomme. Et elle m'a dit, allez, venez. On a fait des séances très très courtes cette semaine-là. Et n'empêche que par contre, oui, cette semaine-là, j'ai sorti des trucs que je me disais, mais qu'est-ce que je raconte? Je suis fou. Je suis fou allié. Cette fusion avec ma mère mangeait tout. Et mangeait tous les autres, quoi. Tout l'entourage. Et du coup, oui, j'ai fait assez vite le lien entre mon anxiété et le schéma familial. Et par contre, ce qui m'a un peu fait sortir à un moment de la tempête, je reçois un message d'un mec que je côtoyais un peu à ce moment-là. Et là, ça me fait un peu tilt dans la tête quand même. Parce que ce message me fait plaisir. Et ce message me ramène à mon désir d'être un homme adulte qui veut aimer un homme adulte. J'ai eu ce message de ce garçon et je me suis dit, il faut à tout prix que j'en fasse quelque chose de ce que je suis en train de traverser. Je peux plus être l'objet de ces crises d'angoisse. Et c'est là, je pense, la BD que j'ai sortie dernièrement et du coup là qui traite de mon anxiété. C'est la première BD que j'ai fait pour moi. Parce qu'en plus, c'est une BD du coup que j'ai faite vraiment. Je l'ai écrite et dessinée au cœur du cyclone, quoi. Où j'en suis aujourd'hui de cette anxiété, ça va mieux. Il y a toujours plein de moments compliqués dans la rue. Enfin, en tout cas, je peux ressentir des montées. J'ai pris des anxiolytiques qui, clairement, je pense, me faisaient pas grand-chose. Mais par contre, et ça m'arrive encore d'en prendre maintenant, je pense qu'il y a un petit effet placebo, quoi. Et j'en ai toujours dans mon sac. Et par contre, récemment, justement, je suis sorti en oubliant de les prendre avec moi. Et là, je me suis dit, ça c'est chouette d'avoir oublié. Oh, don't lean closer now. The hands of iron around my throat have found a way to make me singe the buried vine. Provoked by vanity, no honest word can come from it, I know, so let me lie. From the corners of the bedroom to the kitchen floor, we could stain the carmine carpet like the couples before us, but I don't think we'll feel the way we feel at all.
C'était L'Anxiété, un reportage de Pauline Verdusier réalisé par Clémence Grosse et mixé par Nicolas Le Roulet. Merci à Aude, à Chloé, à Quentin Zution, auteur de la BD Sage aux éditions Le Lombard. La TG production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Mina Morel. Forgive this part of me. I haven't felt this way since 23, and I'm struggling to wing the way you do. 'Cause it took a while to see it, but the orchard's in bloom, and the apple doesn't fall too far out from the root. Don't believe a word I say.